Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
L'estime et l'amitié portées à Bernard Maris, auteur de Welbeck économiste qui a été assassiné par un commando islamiste à Charlie Hebdo. Cette estime et cette amitié ne sont sans doute pas étrangères au choix du titre du nouvel ouvrage de Christian Autier, Welbeck politique, paru chez Flammarion. C'est la première question que je vais lui poser. Christian Autier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu Bernard Maris comme professeur à Toulouse.
Oui. Puis plus tard, nous sommes liés d'amitié. D'ailleurs, nous parlions souvent de Michel Houellebecq avant même qu'il écrive son livre. C'était l'une de nos admirations communes dans le champ littéraire. Et on parlait souvent de son œuvre et de toutes ses dimensions.
Oui. Alors, vous savez qu'il est venu à deux reprises à ce micro. Et j'ai trouvé que c'était un professeur vraiment original. J'ai apprécié sa capacité à rendre simple ce qui me semblait très compliqué, à savoir l'économie.
Ah oui, c'était un vrai pédagogue. D'ailleurs, c'est pour ça que les Français l'aimaient. Enfin, on l'entendait à la radio.
L'humour en plus.
On le lisait dans ses chroniques, dans la presse écrite. Il avait un vrai don, effectivement, de rendre simple les choses. Comme il le précisait, qu'on cherche à rendre compliqué justement pour dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est trop compliqué pour vous.
Oui, exactement. Alors, tout comme lui, vous vous intéressez à l'œuvre de Michel Houellebecq, et considéré particulièrement à l'étranger comme le plus grand romancier contemporain, particulièrement à l'étranger.
Oui, après en France, en tout cas, c'est l'un des romanciers qui vend le plus, et notamment dans la littérature, entre guillemets, j'allais dire sérieuse ou pour adultes, enfin, c'est la littérature de divertissement pur, qui a aussi beaucoup de best-sellers, mais enfin, il a vendu la carte de territoire s'est vendue au-delà en grand format de 500 000 exemplaires, il a une grande popularité, un énorme statut en France aussi. Je crois qu'il a un peu, moi j'utilise le terme de contemporain capital, c'est un peu l'équivalent, après que l'on aime ou que l'on n'aime pas l'œuvre, le personnage, etc. Mais c'est un peu, j'allais dire, notre Jean-Paul Sartre ou notre Camus d'aujourd'hui, quoi. C'est quelqu'un, c'est l'écrivain un peu incontournable.
Je préfère Camus, oui.
C'est l'écrivain un peu incontournable par son statut, c'est le grand écrivain français actuel.
Oui. Alors, je dois vous avouer une chose, c'est que son côté dépressif, sa vision un peu négative quand même de notre société, m'avait détourné à maintes reprises de ses ouvrages, mais. Je reconnais leur côté visionnaire et je dois vous dire aussi que la lecture de votre ouvrage à vous m'a donné envie de le relire.
C'est un des buts du livre.
Voilà, alors déjà, il y a une lectrice de plus. C'est donc le côté politique qui vous a intéressé, mais pourtant il a affirmé ne pas être un auteur politique et il dit même qu'il y a une malédiction dans l'engagement politique et que la politique... Il l'a dit, ça l'emmerde.
Oui, c'est une phrase d'ailleurs que je cite. Il dit, au fond, la politique m'emmerde. C'est quasiment la conclusion d'une longue tribune de plusieurs pages qu'il consacre à la chose politique. En l'occurrence, c'était à propos des élections de 2002, l'élection présidentielle de 2002. Donc, de la politique la plus, j'allais dire, la plus électorale et la plus stricte, au sens le plus strict du terme. Puisque moi, donc, ma démarche était Houellebecq politique. C'est là le politique au sens très large du terme. C'est-à-dire, ça englobe notamment l'économie, le fait religieux, l'évolution des sociétés, de l'Occident. Oui. Et là, Michel Houellebecq, qu'il le veuille ou non, et peut-être qu'il préférerait, au fond de lui, sans doute préférerait-il écrire de la poésie, mais ce qu'il a fait d'ailleurs notamment au début de sa carrière d'écrivain, mais il est un écrivain éminemment politique et tous ses romans en particulier, mais aussi, par ailleurs, il prend énormément de prises de position public et politique sur des sujets de société, dans les médias ou sur diverses tribunes. C'est une dimension incontournable chez lui et qui me paraît assez centrale, assez globale pour aborder beaucoup de thèmes. Moi, ce qui m'a frappé, Michel Houellebecq, il est tellement fascinant que il y a eu des livres sur Houellebecq et l'économie, Michel Houellebecq en Patagonie, Michel Houellebecq au fourneau, donc le rapport de la cuisine dans ses livres. On a fait des livres. Il y avait des livres à peu près sur tout, bon, évidemment sur la littérature, sur son style, etc. Michel Houellebecq et la religion, un livre collectif qui est sorti il y a quelques mois. Mais bizarrement, il n'y avait pas de Michel Houellebecq politique, alors que ça me semble c'est la notion qui permet d'embrasser toute son œuvre.
À mon avis, vous avez pris le thème le plus compliqué parce que ces prises de position sont multiples.
Oui, il est parfois paradoxal, contradictoire, mais c'est ça aussi qui fait sa richesse. Et au final, comme je l'ai fait, quand on se plonge dans ses écrits de 1994 à aujourd'hui, on constate qu'il y a finalement une assez grande cohérence. Alors, il y a eu des évolutions, évidemment, mais il y a quand même une vision extrêmement cohérente.
C'est vrai que exactement ce que vous dites. C'est qu'avec le recul du temps, moi-même, je dois l'avouer, je me dis maintenant, mais dans le fond, ce qu'il a écrit, se révèle.
Oui, souvent, donc on le traite de... Enfin, on le qualifie...
De visionnaire.
De visionnaire, de prophète. C'était d'ailleurs la une de Charlie Hebdo dans ce tragique jour de janvier 2015. Il faisait la une, Houellebecq prophète. Alors, il faisait des prophéties...
Par rapport à l'islam, non ?
Via des caricatures. Mais oui, là, parfois, on s'est d'ailleurs un peu trompé. Par exemple, Soumission, qui sort en 2015, dans lequel il imagine la prise du pouvoir en France lors d'une élection présidentielle en 2022 d'un président de confession musulmane à la tête d'un parti religieux. Bon, là, c'était pas du tout une prophétie, c'était de la politique fiction, c'est une projection. Il imaginait évidemment pas qu'il est suffisamment au fait des jeux politiques et des évolutions. Mais en revanche, si on prend un roman comme Plateforme, qui est sorti en septembre 2001, ce qui était frappant dans ce roman, c'est qu'il anticipe des attentats, alors non pas ceux de septembre du 11 septembre, mais les attentats qui vont frapper Bali et les touristes occidentaux un an plus tard. Il décrit les mêmes zones touristiques et le même processus d'opération. Dans ce livre aussi, donc, comme je le disais, qui est sorti en septembre 2001, mais donc qui a été terminé d'écrire, on imagine, en décembre ou en janvier, donc 6 ou 7 mois avant, les personnages disent que le Lionel Jospin donc, va perdre l'élection de 2002 sur la question de l'insécurité. Et il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à des faits divers, évidemment imaginaires, puisque Michel Houellebecq a écrit ça un an ou plus d'un an avant l'élection. Mais c'est exactement ce qui va se vérifier par ailleurs lors de la campagne de 2002, oui, avec des faits divers très violents qui vont être montés, dont les médias vont donner beaucoup l'écho. Et effectivement, Lionel Jospin le reconnaîtra, il va perdre notamment sur le thème de l'insécurité.
Oui. Mais justement, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est que c'est à travers des romans, avec des personnages fictifs, même s'il y a des personnages connus qui ne le sont pas, des hommes politiques en particulier, qui arrivent à scruter notre société et à parler, entre autres, de politique. C'est oui, par le roman.
Oui aussi, enfin pas seulement, mais oui, effectivement, ces romans. De toute façon, ces romans, ils mettent en évidence les lignes de fracture, les lignes de front, à la fois de l'Hexagone, de la France, donc, puisque la France est souvent, enfin, est au cœur de ces romans, mais pas seulement. Il y a aussi toute une réflexion dans ces romans sur l'Occident, notamment dans le dernier, Anéantir, dans Plateforme déjà, puisqu'il y a une vision, par exemple, du tourisme mondialisé, globalisé. Donc, tous ces romans sont éminemment, encore une fois, brassent les sujets les plus brûlants de notre temps présent.
Finalement, avec une certaine banalité, parce que dans le fond, les personnages sont des personnages lambda qui vivent des situations, somme toute, il y a une personne qui organise des voyages, des choses comme ça. Bon, il y a rien, mais il en arrive à créer une atmosphère... vous dites dans votre ouvrage sinistre, je crois, mais aussi comique.
Oui. D'ailleurs, il fait partie de ces rares écrivains, il y a Modiano, on dit modianesque, qui a donné naissance à un adjectif, Houellebecquien. Alors Houellebecquien, en gros, si on pouvait le définir, je ne sais pas si c'est entré dans le dictionnaire, mais c'est un mélange de dépression, de médiocrité, de misère humaine, enfin de misère sociale au sens de relationnel, d'ultra-moderne solitude, comme disait Alain Souchon. Donc oui, il y a ça. Ce personnage, on dit aussi souvent qu'il est, à juste titre, qu'il est l'écrivain des classes moyennes ou des CSP un tout petit peu plus, des petits cadres, des informaticiens, c'est-à-dire
La France périphérique, comme on
oui,
dit.
Oui, aussi, il met en scène ça, mais par exemple, les deux personnages principaux d'Extension du domaine de la lutte, son roman, sont des informaticiens, des petits informaticiens qui sillonnent la France au sein d'entreprises.
C'est quel roman, là ?
Extension du domaine de la lutte.
Ah oui, le premier, oui. C'est celui qui l'a fait connaître.
Oui, c'est son premier. Et voilà, c'est un peu la quintessence, j'allais dire, du héros, ou plus exactement du anti-héros, ou Houellebecquien, c'est-à-dire l'espèce de cadre. de trentenaire désabusé et qui est plongé, donc, comme il
écrasé, disait, je dirais même.
Oui, écrasé à la fois par ses propres démons et puis par une atomisation de la société, donc ce qu'il appelle ce domaine de la lutte, ou cette compétition économique qui s'étend jusqu'au rapport humain et au rapport amoureux et sexuel.
Oui, d'accord. Alors, je me suis dit, mais comment Christian Autier va-t-il trouver une étiquette politique à Houellebecq, si tant est qu'il faille trouver une étiquette politique?
Bon, ben déjà, ce qui est facile, c'est qu'on peut le définir par la négative. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un intellectuel de gauche, ce n'est pas un progressiste. Après, il a fait suffisamment de
Il est parti de la gauche, quand même, non?
Ben, c'est ce que j'évoque dans mon livre. Il y a peut-être eu un malentendu, c'est-à-dire que son premier roman, Extension du domaine de la lutte, est perçu à juste titre comme une critique implacable du libéralisme économique, ce qu'on appelait à l'époque même le néolibéralisme. Et donc, une certaine presse de gauche, notamment les Inrecuptibles, qui vont en faire l'un de leurs chroniqueurs vont l'adopter, et une partie de la gauche va se reconnaître dans cette critique du capitalisme mondialisé. Mais il y avait peut-être un malentendu déjà, et qui va être précisé par les particules élémentaires 4 ans plus tard, où là il se livre par exemple à une critique implacable de mai 68 et de l'héritage culturel, politique et sociétal de mai 68. Donc ça, c'est pas vraiment une posture qui est très répandue à gauche, même si d'autres l'avaient fait, Régis Debray, etc.
Oui, oui, oui.
Mais là on voit déjà que sa critique du capitalisme et du libéralisme, de l'économie de marché, ne suffit pas à le classer à gauche, loin de là. Et ensuite il a très bien, alors on l'a accusé ensuite d'être nouveau réactionnaire. C'était notamment une polémique en 2002 avec le petit essai de Daniel Hindenburg, Les Nouveaux Réactionnaires. Et Houellebecq s'en est très bien expliqué. Lui, il n'est pas du tout réactionnaire, en ce sens qu'il ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Et selon lui, tout processus de destruction et de dérédiction, qu'il s'agisse d'institutions, de corps constitués, de familles, de civilisations, est inéluctable. Et une fois qu'il s'est produit, on ne peut plus revenir en arrière.
Oui, c'est dans ce sens qu'il est quand même pessimiste par rapport à... Parce qu'on ne voit pas trop de solutions avec lui.
Oui, bah alors justement, selon lui, la solution, enfin, il se définit volontiers comme conservateur. C'est-à-dire, il pense qu'il est très allergique à la violence politique, aux révolutions. Voilà, et donc, il voudrait que les choses changent le moins possible. Et ce qui est intéressant dans ses romans, c'est que ça passe par des choses à la fois extrêmement triviales. Par exemple, il décrit très bien la panique de ses personnages. Et on peut imaginer que c'est celle aussi de Michel Houellebecq. Par exemple, quand disparaissent des objets de consommation courante, alors il cite une parka, un combiné ordinateur, imprimante ou un appareil photo. Il dit quand ces objets disparaissent du marché, puisque selon le principe de l'obsolescence programmée et du renouvellement perpétuel du produit pour qu'on achète toujours plus, ça le plonge dans un désarroi profond. Donc à la fois, c'est par trivial mais très profond.
Oui.
Et par ailleurs, il est conservateur dans le sens qu'il aimerait que les choses, les institutions, les corps constitués bougent le moins possible.
Oui, en même temps, j'ai ri parce qu'à un moment donné, vous citez un extrait d'un de ses livres dans lequel il parle de sa parka. Enfin, il y a 3 objets, je crois, auxquels il tient.
La parka, le combiné ordinateur imprimante et un appareil photo.
Voilà, bon. Et apparemment, c'est ce qui fait son grand bonheur. Et justement, j'ai interviewé il y a très récemment un directeur de recherche parisien qui disait qu'actuellement, les chercheurs, en particulier dans tout ce qui concerne la nature et le climat, évidemment, se posent des questions et sur le fonctionnement, la nécessité d'arriver à une forme de frugalité ou de restriction de consommation. Et je me suis dit, mais il est dans ce sens, il va dans ce sens.
Oui, parce que, enfin, et ça, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont senti. Ce qui est rassurant quand on trouve un objet et qu'il dure,
oui,
c'est on y est attaché, on aimerait l'avoir toute sa vie.
Oui,
et on pense qu'on pourra l'acheter 5 ans ou 10 ans plus tard, sauf qu'il a été remplacé par d'autres produits.
Oui.
Et que ça crée un désarroi. Houellebecq est aussi, on l'a dit souvent, mais c'est l'écrivain des supermarchés. Il décrit absolument là aussi l'affolement du consommateur face à des linéaires qui changent en permanence et des lieux qu'on ne reconnaît plus ou dans lesquels on est perdu. Et voilà, et c'est amusant parce que ça, c'est des choses que beaucoup d'entre nous ont ressenti. Enfin, moi, si je puis me citer, il y a quelques semaines...
Oui, c'est pas toujours très agréable, parce qu'on se dit, tiens, ben oui, c'est un peu moi, ça.
J'ai découvert un grand magasin du centre-ville où les caisses avaient été remplacées par des robots, enfin, par des caisses automatiques avec des portiques, comme dans les aéroports,
d'accord,
où il faut brandir sa facture.
Oui.
Enfin, j'étais totalement déboussolé.
Oui, oui. Quand on parlait donc de ces couleurs politiques, ces différentes couleurs. Donc, vous dites que finalement, ben, on a du mal à lui donner une couleur parce qu'il a écrit dans des journaux très, très différents.
Oui, oui, bah comme je le disais, il a commencé notamment aux Inrecuptibles. Il a écrit dans Lettres françaises des chroniques, donc Lettres françaises, qui est un magazine, un journal qui est lié au Parti communiste français. Il a donné beaucoup de tribunes au Figaro. Donc il a eu des collaborations diverses. Après, sur ses engagements politiques, le plus frappant, enfin le plus direct, ça a été lors de la campagne présidentielle de 2002, où il s'est engagé en faveur de Jean-Pierre Chevènement, à la fois à travers des textes et des tribunes qu'il a publiées. Il a participé à un recueil collectif qui s'appelait Comptes de campagne, Comptes CONTES. Donc ça, c'est un des moments où il s'est vraiment engagé là, dans le champ, j'allais dire, électoral.
Oui. Vous dites que sa lecture, c'est découvrir en temps réel la construction et l'évolution d'un écrivain majeur, d'un futur classique. Mais justement, il me dit... Et vous faites référence à Proust, Céline, Balzac, Stendhal, mais ceux-là, il me semble qu'ils n'ont pas eu autant chez eux autant de fluctuations dans leur vision de la société.
Je sais pas. Bon, Balzac, hélas, je n'ai pas tout lu, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui ont pas mal évolué dans sa vision, évidemment, des réalités de l'époque. Mais après, non, moi, je trouve que Houellebecq, finalement, c'est une vision qui s'enrichit, qui peut se superposer, mais qui reste assez cohérente et assez, j'allais dire, pas monolithique, mais il y a quand même un bloc vraiment central. Donc, on pourrait dire par le pessimisme, le critique, la critique donc de la compétition économique et de la lutte entre les humains, je ne sais pas si j'ai osé utiliser le terme parce que ça ne vient pas forcément à l'esprit en premier, mais il y a quand même aussi un grand humanisme chez lui une attention portée aux plus faibles, aux plus démunis, ce qui explique notamment ses prises de position là aussi très tranchées contre l'euthanasie. Il y a quand même des cohérences et des fils rouges assez profonds.
Tout à l'heure, oui, je vous ai parlé de Proust, Céline, Balzac, et je disais, on n'a pas connu de telles fluctuations.
Céline a beaucoup évolué entre l'anarchiste pacifiste de 1932 et le collaborateur antisémite.
Mais j'ai trouvé une explication. Je réfléchis, je ne sais pas si j'ai raison. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que, justement, notre société est dans un phénomène d'intense accélération?
Oui, bien sûr.
Ce qui fait qu'il suit un petit peu aussi, il analyse.
Oui, en même temps, lui, paradoxalement ou pas, il fait beaucoup aussi l'éloge de la lenteur et du pas de côté. On rejoint la question de la sobriété et la frugalité. Oui. Notamment dans un texte qui est très beau, il dit, voilà, il faudrait se retirer de cette course en avant, de ce mouvement perpétuel. Ça aussi, c'est une des grandes angoisses de Michel Houellebecq, c'est tout ce discours et cette réalité sur qu'on pourrait résumer par il faut aller de l'avant, il faut moderniser, il faut réformer, il faut que ça bouge, il faut que toutes les choses bougent en permanence, et lui préconise le retrait, la lenteur, l'inaction, et notamment, je crois ici dans ce passage, le fait de ne plus rien acheter, par exemple.
Oui, là il va se faire des ennemis, effectivement. Alors, dans votre ouvrage, je vois est-il de gauche, donc néo-réac, islamophobe, profondeur de mai 68, on va y revenir, là aussi c'est très intéressant, de la libération des mœurs, apologue d'une sexualité débridée, souverainiste, décliniste, conservateur, dénonciateur implacable du libéralisme économique et de la mondialisation, adulé en même temps par les Inrecuptibles, les valeurs actuelles, par une certaine gauche morale. En fait, il mène tout le monde en bateau. C'est très bon parce qu'en fait, ça titille tout le monde.
Comme il n'est pas monolithique et comme il a une pensée assez à la fois complexe et variée, c'est vrai que des gens peuvent s'y retrouver, des gens très divers comme ceux que je citais, peuvent se retrouver chez lui sur certains points. C'est ça qui est intéressant, et comme il est quelqu'un c'est ce qu'il définit au final, comme je dis, de singulièrement libre, chacun peut trouver chez Michel Houellebecq, qu'il n'est pas un idéologue, qu'il n'est pas un esprit partisan, il appartient à aucun parti, il est aussi profondément irrécupérable au sens politique du terme. C'est ça qui fait justement le fait qu'il puisse attirer des sensibilités ou des lecteurs très divers. Effectivement, pour caricaturer, il y a un électeur, pour le coup, ou un lecteur issu de la France insoumise pourra se retrouver, par exemple, dans la critique de l'économie de Michel Houellebecq, et un lecteur du RN ou de chez Zemmour pourra se retrouver dans sa critique de mai 68 ou de la libéralisation des mœurs ou de l'islam.
Alors chacun se retrouvera, mais chacun pourra être irrité aussi. C'est assez, quand même, je trouve assez efficace. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mai 68 et il semble qu'il attribue beaucoup de conséquences désastreuses à mai 68. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Il y a quand même bien des points qui viennent de cette époque-là.
Oui, puisque
j'ai bien connu.
Ce qui est intéressant, c'est que lui porte le fer contre 68 en 1998, à partir notamment donc à partir des particules élémentaires. C'est-à-dire un moment où c'est pas encore. Enfin, il y avait eu des livres précédents. Il y a eu Régis Debray, il y a eu Pasolini très vite après 68, des intellectuels. Mais lui, vraiment, c'est un écrivain. Donc ce roman va se vendre à 300 000 exemplaires. Ça va être un énorme succès. C'est, j'allais dire, dans un roman grand, entre guillemets grand public, qui l'amène une charge comme ça très très violente et contre mai 68, dans lequel il voit, pour résumer, son plus grand grief, c'est la destruction des valeurs morales élémentaires, dont la bonté, la fidélité au profit. Alors, sa vision est peut-être excessive ou radicale ou partielle, mais selon lui, pour résumer, des personnages expliquent ça dans les particules élémentaires, en fait, le stade final du hippie ou du flower power, c'est le tueur en série. Et il dit, une fois qu'on a épuisé les jouissances du sexe et de la libéralisation des mœurs, on tombe dans la cruauté, le sadisme, voire le meurtre. Alors, c'est sans doute un peu excessif.
Mais en même temps,
il y a une logique, il y a une part de vérité. Un autre écrivain, d'ailleurs, un de ses contemporains qu'il aime beaucoup, l'américain Bret Easton Ellis, faisait un peu le même processus avec son fameux roman American Psycho, où il décrit un trader qui, ayant épuisé toutes les jouissances,
malade mentale quand même,
les jouissances sexuelles, matérielles, etc., se tournait vers le crime en série.
Oui. Alors bon, il parle de dévalorisation du couple, de la famille, voire éclatement. C'est un fait de la libération des mœurs, sexualité débridée, mais aussi finalement un individualisme à outrance, un narcissisme aussi. Et ça, on le voit actuellement.
Oui, individualisme et ce qui va avec, c'est-à-dire la solitude, extrême solitude et l'impossibilité de l'amour. Parce que ça aussi, on l'oublie souvent, mais les romans de Houellebecq sont quasiment toujours des histoires d'amour, alors qu'ils finissent mal, souvent. Quasiment toujours, mais il y a ces histoires d'amour, et selon lui, c'est aussi, pour une part, la société, qui est nos conditions de vie modernes, qui ont rendu impossible la rencontre sincère, absolue, totale, éternelle, entre guillemets, entre un homme et une femme.
Alors, il parle de mai 68, mais il parle également évidemment du capitalisme et il dit que Bernard Maris qui disait ça, que l'essence même du capitalisme est fondée sur l'incertitude et l'angoisse.
Oui, c'est ce qu'on en évoquait déjà un petit peu tout à l'heure face à ce consommateur affolé. L'incertitude, l'angoisse et le mouvement perpétuel, et c'est en ce sens que la vision de l'économie de Michel Houellebecq, qui était aussi en partie celle de Bernard Maris, se focalise sur cette idée de changement perpétuel qu'on retrouve déjà beaucoup chez Karl Marx, que je cite longuement parce que c'est un passage magnifique du manifeste du Parti communiste, dont on a l'impression qu'il a été écrit aujourd'hui. Il parle des produits manufacturés qu'on va fabriquer en Chine et de toutes les choses qu'on croyait solides qui deviennent poussière. Et c'est frappant. Et Marx avait eu le génie visionnaire de comprendre ce que n'ont pas compris beaucoup de critiques du capitalisme de la gauche, de comprendre que le capitalisme n'est absolument pas conservateur et encore moins réactionnaire, que c'est une puissance, c'est un mouvement révolutionnaire. Il veut révolutionner en permanence les modes de production, les modes de fonctionnement, les sociétés. Et pour lui, rien ne doit rester solide. Et donc, et Marx le cite déjà à son époque, y compris la famille. La famille doit exploser dans un régime capitaliste idéal. Il ne doit plus avoir de rapport de gratuité, de dons, de générosité, désintéressé. Tout doit être sonnant et trébuchant. Et ça, Michel Houellebecq l'a remarquablement compris.
Oui. Le capitalisme a détruit également donc le respect de la tradition. Oui, c'est ça. La tradition, c'est la continuité.
Oui, et puis tout. Et donc, on le voit aujourd'hui avec la gestation pour autrui. Même porter un enfant peut devenir une activité à terme. Elle deviendra monnayable et commercialisable. Ouais. Même, ça existe déjà dans certains pays, mais sous nos contrées, c'est inévitable.
Oui, oui. Également, le culte des ancêtres aboli, ça. Oui. Houellebecq est sévère quant au rôle de la bourgeoisie. Alors attendez, j'ai un extrait, je pense que je vais le retrouver rapidement. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques, tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels. Elle les a brisés sans pitié pour se laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Je m'arrête là parce que ça continue.
Ben justement, c'est intéressant parce que là, en fait, vous avez cité un extrait de la citation de Karl Marx que j'évoquais. C'est pas du Houellebecq, mais on dirait du Houellebecq. C'est ça qui m'a frappé.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que j'ai reproduit cette citation. C'est que c'est exactement ce que décrit dans ses romans Michel Houellebecq.
Oui, en disant aussi que donc, la société se détourne aussi de la transmission et de la filiation. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, évidemment, quand on y réfléchit, on se rend compte que ça aussi, on l'observe maintenant, vraiment.
Oui, c'est un phénomène, oui, effectivement, qui a plusieurs décennies. Et Michel Houellebecq met souvent en scène, que ce soit dans Les Particules et dans son dernier roman, Anéantir, dans Sérotonine aussi, des familles éclatées, des parents qui ont été abandonnés par leurs enfants, du coup, qui détestent leurs parents, des hommes adultes, des pères qui sont, ils disent, je ne sais plus quel personnage dans quel roman, je suis incapable de transmettre quoi que ce soit à mon fils, et d'ailleurs, qu'est-ce que je voudrais lui transmettre. Donc oui, c'est une espèce de, là encore une fois, de société.
Et puis ils n'ont pas forcément envie de transmettre.
Non, mais d'abord, ils n'ont pas forcément envie, et puis ils ne voient pas vraiment de ce qu'ils peuvent transmettre, à part des valeurs, encore une fois, matérielles, ou un héritage, un héritage sonnant et trébuchant. Donc oui, c'est des êtres qui sont un peu dénué de sens existentiel.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien, il y a chacun, il y a l'individu.
Oui. Houellebecq, c'est l'un des grands écrivains de la déréliction dans tous les domaines de la société.
Alors, ce qu'il y a aussi, et on en a beaucoup parlé de cela, c'est qu'il met dans le même sac le libéralisme économique et le libéralisme sexuel. C'est pour lui un phénomène de paupérisation absolue.
Oui, alors ça c'est la grande thèse qui est déployée dans Extension, domaine de la lutte, qui va reprendre dans plusieurs romans. C'est-à-dire que le libéralisme est un fait politique, économique, social, total, complet, culturel, et donc évidemment qu'il va contaminer, si je puis dire, les rapports amoureux et la sexualité. Donc il va y avoir une compétition, une guerre entre les individus, entre les jeunes et les vieux, les séduisants et les pas séduisants, ceux qui vont adopter les codes que le marché, donc les codes esthétiques que le marché va instaurer. En même temps, ce qui est paradoxal dans cette critique de 68 et de une certaine, encore une fois, déréliction des mœurs, sexualité débridée qu'il décrit,
c'est que
Michel Houellebecq, en tant qu'individu, et d'ailleurs beaucoup de gens qui critiquent 68 sont comme ça, est un pur produit, enfin un pur héritier des libérations aussi de 1968. C'est quelqu'un qui a divorcé, je crois, 3 fois, si je ne me trompe pas, ou qui s'est marié 4, donc ce qui revient au même. C'est quelqu'un qui, comme il l'a reconnu très librement, donc certains romans étaient
fréquenter des lieux pas fréquentables,
des boîtes échangistes, des plages nudistes, qui a une vie sexuelle extrêmement débridée, qui a consommé des drogues. Donc c'est quelqu'un qui a tout à fait profité en même temps.
On peut dire qu'il sait de quoi
la libéralisation des mœurs de 1968. Ce qui est amusant, et je pense alors sur un tout autre champ, mais Nicolas Sarkozy qui prétendait liquider l'héritage de 68, selon ses termes, lui aussi est un homme dans la vie personnelle, alors, sur le plan uniquement des divorces et des remariages, été particulièrement, on va dire, libéré.
Justement, on en a beaucoup parlé ces temps derniers, grâce à plusieurs ouvrages. On a parlé des dérives des intellectuels de 68 et 68A. Permissivité, transgression, libertarisme, je ne sais pas si ça se dit. Mmh. Ça se dit, oui, peut-être. Et avec le sentiment qu'on ne peut pas être atteint.
Mmh. Oui, ben là encore, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est interdit d'interdire et jouir sans entrave. Si on le met vraiment, si on le prend au pied de la lettre, ben ça peut justifier ce qu'on appelait, enfin ce que ces turiféraires appelaient l'amour libre dans les années 70 entre les générations, donc entre des adultes et des enfants. Il n'y a plus de limites si on applique ces slogans, ouais. Encore une fois, au sens strict.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas justement, inversement, un conformisme maintenant, enfin pas que maintenant, hein, commence à dater, un conformisme libertaire? C'est-à-dire que ceux qui veulent aller à l'encontre de certains comportements, ne sont pas taxés de conformistes. Je ne sais pas, je crois que je me suis mal exprimée là pour le coup. Non, je pense que ceux qui sont pour des règles plus strictes, disons-nous, sur le plan moral, vont être montrés du doigt.
Ça dépend. Moi, je crois qu'il y a quand même eu... D'ailleurs, Michel Houellebecq avait très bien évoqué ça quand il y a eu la polémique sur les nouveaux réactionnaires en 2002. En gros, il a dit que ça a été l'histoire, l'affaire de l'arroseur arrosé. Quoi. C'est-à-dire que cet intellectuel, Daniel Lindenberg et la presse...
L'affaire 2002, attendez-vous, faites allusion
à quoi? Daniel Lindenberg qui publie un pamphlet, Les nouveaux réactionnaires, où il critique la dérive droitière et anti-68art d'une part de l'intelligentsia française. Alors, ça va de Marcel Gauchet, Finkielkraut, Houellebecq, Philippe Muret. Et en fait, c'est Lindenberg qui va se retrouver... entre guillemets, cloué au pilori et renvoyé à ses chères études. Et il y avait quand même, donc déjà à ce moment-là, il y a eu un basculement, il avait commencé un peu avant, où justement les critiques de 68 devenaient, sans être hégémoniques, mais enfin s'équilibraient énormément. Et moi je pense plutôt, et c'est ce que j'évoque brièvement dans ce livre, et que Michel Houellebecq, par son talent d'artiste et son refus du manichéisme, y échappe, qu'on a peut-être un conformisme inverse, c'est-à-dire... qui a ce qu'on a appelé là, justement, donc parfois pour le dénoncer, les nouveaux réacs, enfin un renouveau d'une pensée de droite. La droite a dit qu'elle avait gagné les valeurs, enfin certains disent qu'elle avait gagné la bataille des culturelles. On a vu le phénomène Zemmour, c'est-à-dire ce non-conformisme entre guillemets de droite est devenu à son tour un conformisme et produit des discours totalement stéréotypés.
Donc on a affaire des deux côtés à des conformistes.
Oui, évidemment. Enfin, dès qu'il y a de l'idéologie, l'idéologie produit son discours. J'allais dire monolithique, voilà, parce que après ce qui est intéressant, c'est dans certains qui critiquent 68, c'est qu'on a l'impression que 68 est la cause de tous les maux. Alors c'est l'école, la famille, l'armée, la délinquance, enfin voilà, alors que c'est un peu plus complexe que ça et que les choses vont plus loin ou vont remontent plus loin que 68.
Oui. Apparemment, il n'est pas très européen, hein, Houellebecq.
Non plus, non, là, on peut le qualifier de souverainiste au sens, là aussi, le plus banal du terme. C'est-à-dire, non, il n'aime pas la construction européenne. Il est plutôt ce qu'on appelait national-républicain. Donc, d'où son soutien en 2002 à Jean-Pierre Chevènement. Oui,
ça, c'est curieux. Vous le comprenez, vous, ça?
Oui, parce que c'est quelqu'un de... Il a grandi malgré tout dans la... Je crois qu'il est né, si je ne me trompe pas, hein, parce qu'il triche un peu sur sa date de naissance, mais entre 1954 ou 56. Donc il a grandi dans la France gaulliste, du moins sa petite... Il a baigné, il a une nostalgie aussi un peu du Parti communiste. Donc c'était
France gaulliste, c'était l'Europe quand même, c'est De Gaulle.
Oui, mais c'est l'Europe à 5 ou 7, et
oui,
c'est,
voilà.
C'était pas l'Europe qui s'étend jusqu'à la Lettonie, et à une époque on voulait l'étendre jusqu'au Bosphore, à la Turquie. Donc c'est quelqu'un qui a... Je pense qu'il est attaché à certaines idées de la France, souveraine, indépendante, libre, et pas tellement à l'Europe, et notamment ce qu'il est. Parce qu'il a aussi, lui, malgré tout, un côté anarch, enfin, moi j'y consacre d'ailleurs un chapitre, un côté anarch, sinon libertaire, c'est qu'il déteste les règlements, les interdictions, notamment les interdictions de fumer.
Les élections.
Il a une grosse addiction à la tabagie, comme on le sait. Donc il n'aime pas ce côté, effectivement, on ne peut pas réduire l'Europe à ça, mais réglementation, interdiction, normes, etc.
Oui. Oui, quand on le lit, quand même, on a souvent l'impression que ces personnages vivent dans une sorte de grisaille, de dépression permanente. Et l'homme, tout à l'heure, vous parliez, on parlait de l'homme est écrasé, il est soumis, manipulé. C'est quand même assez... Quand, c'est marrant parce que j'ai entendu dire que les Américains trouvaient que les livres de Houellebecq étaient anti-français.
C'est pas, il y a une part de vrai, oui. Enfin, oui. Enfin, il reste un malaise, mais qui va au-delà de la France. Il croit aussi beaucoup. J'ai consacré un chapitre à ce sujet au déclin de l'Occident plus généralement. Mais oui, il est très sévère envers la France. Pas tellement envers la France, mais ce qu'elle devient et envers certaines attitudes. Mais il y a un contrepoint à cet individu. Alors, tout simplement, enfin, plus que des individus soumis et écrasés, c'est des individus atomisés, réduits à leur statut, pour paraphraser un de ces titres, de particules élémentaires. Donc on est disloqué, on est réduit à des, comme ça, une espèce de vie cellulaire, séparée de tout, de toute appartenance commune. Mais le contrepoint à cette vision assez noire, chaque fois, ou quasiment chaque fois, c'est l'amour et le couple. Alors ça réussit pas forcément, où il y a la maladie, des attentats, des choses qui viennent interrompre ces histoires d'amour, mais il y a quand même malgré tout un versant plus lumineux et une possibilité, là aussi pour paraphraser le titre d'un de ses poèmes, la possibilité d'une île et d'échapper à ce chaos général grâce à l'amour et au couple.
Mais justement, le fait de pouvoir échapper à cette passivité, cette manipulation, je me suis posé la question, comment voit-il les Gilets jaunes ?
Il s'est pas exprimé directement sur les Gilets jaunes. Il y a une autre déclaration qu'il avait faite il y a 5 ans dans l'entre-deux-tours de la présidentielle qui était très intéressante, que je reproduis, où il dit que par exemple sociologiquement, enfin, et dans son roman qui était sorti au moment où les Gilets jaunes prenaient leur ampleur, lui il avait imaginé, donc quelques mois plus tôt là encore, et on a dit qu'il était visionnaire, des frondes de paysans autour des ronds-points. Alors ça n'a pas été ça les Gilets jaunes, c'était pas que des paysans, loin de là, politiquement Michel Houellebecq se sent assez proche des Gilets jaunes, cette France périphérique abandonnée qu'il décrit par moments, et après sociologiquement, comme il le dit lui-même, il appartient à la France des vainqueurs et des, sur le plan économique. Donc il disait donc à cette émission de télévision sur France 2, moi je suis plutôt du côté des électeurs de Mélenchon ou de Marine Le Pen, mais économiquement je suis du côté d'Emmanuel Macron. Et il disait qu'au lieu de toute façon il n'allait pas voter, mais lucidement, voilà, il voyait bien
il y a les perdants et les gagnants.
Et lui, c'est paradoxalement, c'est un vainqueur de la mondialisation. Et d'ailleurs c'est quelqu'un qui a eu un comportement, enfin qui a eu une vie, pour citer cette fois Jean-Pierre Chevènement, qui pourfend naguère les élites mondialisées. Michel Houellebecq est un pur produit, une pure incarnation des élites mondialisées. Il a vécu en Irlande pour échapper au fisc, enfin pour avoir bénéficié d'un statut fiscal plus intéressant pour les artistes.
Pas,
il a vécu 7 ans ou 8 ans en Irlande, il a vécu ensuite en Espagne, il a fait le tour du monde, de l'Europe et du monde pour promouvoir ses livres. Enfin voilà, c'est quelqu'un, il a eu énormément de succès, donc énormément d'argent. C'est quelqu'un qui appartient aux vainqueurs de la mondialisation.
Oui. Alors, il dit aussi qu'il y a ceux qui ont... Justement, vous dites les perdants et les gagnants. Alors, il y a ceux qui ont la beauté ou la richesse ou la jeunesse, avec de l'ambition et du sexe aussi. Et puis, ce qui est même donné, cette valeur est accordée même par ceux qui n'ont rien de tout ça, en fait. Donc, c'est ceux qui règnent en maître actuellement.
Ce qui règne en maître, c'est...
C'est-à-dire la valeur donnée à la beauté, à la richesse, à la jeunesse, à l'ambition, au sexe. Vous me direz que, évidemment, il vaut mieux être jeune, riche et bien portant.
Oui, ce sont des notions, j'allais dire des valeurs, c'est peut-être pas le bon terme, des notions qui ont pris beaucoup d'importance, je pense, depuis 30 ans, 40 ans, les années 90, culte, et à 80 même, culte du corps, de la santé, de la beauté, de la jeunesse.
Oui, c'est ça.
Alors, on retrouve ça dans d'autres époques et sous d'autres régimes, en général, souvent des régimes totalitaires d'ailleurs. Mais c'est vrai que plus globalement, enfin de manière beaucoup plus, j'allais dire, massive et démocratique, c'est un phénomène qu'on peut dater des années 1980 et qui existe encore aujourd'hui. Enfin, on le voit avec les canons physiques, les critères de beauté et qui sont particulièrement, comment dirais-je, puissants sur les plus jeunes.
Alors, on voit l'homme nouveau paraît être un homme seul, sans espérance, sans envie, narcissique, mais aussi, du moins chez Houellebecq, avant-gardiste, il prône l'économie, la non-consommation, à un moment donné, vous en parlez. Il a ce côté quand même assez nouveau.
Moi, je pense que c'est plutôt ancien, c'est une certaine frugalité qu'on pourrait faire remonter à des... Même
mais quand vous parlez d'ancien, vous remontez loin, loin.
Oui, je pense à des siècles ou des millénaires. Et même à notre époque contemporaine, c'est un mouvement qui commence à cette critique d'une certaine modernité, il y a aussi ce rejet de la technique et de la du productivisme. Bon, on a ça déjà chez Gunther Anders sur l'obsolescence de l'homme dans les années 50, chez sa compagne Simone Veil. Donc c'est plutôt dans ce sillage-là, ou même dans la doctrine sociale de l'Église que Houellebecq se situe. Oui, donc c'est quand même un courant, je veux dire, qu'on peut faire remonter très, très loin.
Oui. Comment se situent les femmes dans son œuvre, finalement? Est-ce que ce sont toujours des objets consommables?
Non, comme j'ai insisté là-dessus, il y a de très belles histoires d'amour et de très beaux personnages féminins chez Michel Houellebecq. Alors, assez bizarrement, certains trouvent que c'est misogyne, qu'il y a une dimension misogyne, tout simplement parce qu'il n'est pas une personne. Enfin, il y a des personnages masculins qui sont absolument grotesques, nuisibles, maléfiques. Il y a des personnages féminins qui sont aussi grotesques et nuisibles. Et puis, mais il y a surtout de très beaux personnages féminins qui, chaque fois, justement, incarnent l'espoir, voire l'espérance du héros masculin. Donc, et encore une fois, de très belles histoires d'amour.
Mais est-ce qu'ils ne considèrent pas leurs revendications comme extrémistes, un peu excitées, non ?
Non, il y a des personnages secondaires, effectivement, de féministes ou de... Mais c'est plus globalement, on est là, les progressistes qu'il brocarde dans ses livres. Je me souviens, en plateforme, il y a des dialogues assez drôles où il y a des personnages, un couple, notamment une jeune femme qui défend les rapports sadomaso et le fait de faire souffrir des adultes à partir du moment où ils sont consentants. Mmh. Et il dit, je cite de mémoire, le personnage dit... bientôt cette conne allait évoquer les droits de l'homme. Je pense pas que c'est dans le domaine de la misogynie, c'est plutôt dans le domaine d'une critique ou d'une moquerie radicale d'un certain progressisme dévoyé.
Alors on peut aborder un point aussi qui lui a valu bien des ennuis, c'est ses propos, ses écrits sur l'islam. Alors, une religion selon lui qui se signale dès la naissance par une suite ininterrompue de guerres, d'invasions, de massacres. Bon, ça... Et en fait, il n'a pas tout à fait tort, quand même.
Il y a eu plusieurs époques dans le... les positions de Michel Houellebecq. Il y a eu d'abord la polémique de 2001, au moment de la sortie de plateforme, où il fait une interview, il accorde une interview au magazine Lire, dans laquelle il dit c'est la religion, l'islam est la religion la plus con. Donc il va être poursuivi devant les tribunaux par des représentants de l'islam, notamment la mosquée de Paris, et il sera relaxé, évidemment, quelques mois plus tard, puisqu'on peut critiquer une religion, y compris violemment, ou l'insulter en France. Après, par ailleurs, dans le roman Plateforme, il y a des personnages qui tenait des propos très radicaux contre l'islam, mais encore une fois, bon, là c'est de la fiction, c'est des personnages de fiction. Et ensuite, il y a eu un deuxième moment polémique, c'est au moment de la sortie de Soumission, en 2015, où on l'a accusé d'islamophobie, de fantasme d'un président musulman et issu d'un parti confessionnel. Mais là encore, les deux fois, ce qui est intéressant, alors c'est pas amusant parce que c'était des moments très tragiques, c'est que les critiques de Michel Houellebecq, donc Houellebecq islamophobe en 2001, critique contre l'islam, quelques jours plus tard, il y a le 11 septembre, et là tout le monde va découvrir qu'il y a effectivement, au moins, il y a un islam radical, violent, terroriste, et hélas, au moment de la sortie de Soumission, ce sont les attentats de l'hypercachère et de Charlie Hebdo qui vont non pas donner raison à Michel Houellebecq, mais qui vont montrer que voilà, il y a un problème, en tout cas avec l'islam.
Bien sûr.
Mais l'islamophobie, bon, après c'est un autre concept.
On parlera justement de ce qu'il dit aussi, mais on va faire une pause musicale rapide, si c'est possible. Et ça sera d'ailleurs un poème, je pense, de Michel Houellebecq.
Je suis, qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Emmenez-moi partout, partout, mais pas ici. Faites-moi oublier tout ce que j'ai. Le soleil et l'aurore apaisée, non, je n'ai pas sommeil, je vais vous embrasser. Êtes-vous mon ami? Répondez, répondez. Où est-ce que je suis? Il y a du feu partout. Je n'entends plus de bruit. Je suis peut-être fou. Il faut que je m'étende et que je dorme un peu. Il faudrait que je tente de nettoyer mes yeux. Dites-moi qui je suis. Regardez-les mes yeux. Êtes-vous mon ami? Me rendrez-vous? N'est pas fini et la nuit est en feu. Où est le paradis? Où sont passés les dieux? Oh, êtes-vous mon ami?
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, vous venez d'entendre une chanson dont les paroles sont de Michel Houellebecq, chantée par
Jean-Louis
Aubert, voilà, vous savez tout. C'est un poète aussi, et ça, vous voyez, en général, les gens ne savent pas tellement.
Non, mais effectivement, il a commencé... pas seulement, la même année, il publie trois livres, il y a un recueil de poésie, il y a un livre sur Lovecraft, et il y a une espèce de, comme il appelait, une méthode entre l'essai et la prose en vers. Enfin, c'était un livre assez étrange. Mais après, il a publié, oui, plusieurs recueils de poésie, et c'est, selon lui, c'est la forme, la plus haute forme littéraire. Et effectivement, moi, je trouve que c'est un très très bon poète. Et d'ailleurs, on le voit, quand c'est mis en musique, comme souvent, enfin, nos grands poètes ont été mis en musique, Aragon, Baudelaire et Éluard, et Houellebecq, ça franchit très très bien le cap.
Voilà une indication pour cet été, des lectures de l'été. En fait, on dit que c'est vrai que c'est un visionnaire. La politique est discréditée, mais ça, il l'avait dit. On voit le taux d'abstention aux dernières élections. Il a parlé de colère populaire, des problèmes liés à l'immigration, de la marchandisation des corps, de la morale et ses déviances, de les religions et des sectes. Alors justement, il a parlé de l'insécurité, évidemment. Quant à la religion, alors moi j'ai découvert qu'en fait, il était très religieux dans le fond.
Oui. Alors là aussi, il y a eu des rapports. C'est là le domaine peut-être où il a évolué, ou du moins dans ses déclarations. Donc à l'époque, je citais en 2001, quand il fait ses déclarations sur l'islam, il dit que c'est la religion la plus con, mais il rejette en bloc tous les monothéismes. Et il se définit à l'époque comme athée. Ensuite, quelques années plus tard, il va se définir comme agnostique. Et de plus en plus, alors c'est devenu de moins en moins, j'allais dire, occultable ou invisible. Il y a sa très forte imprégnation chrétienne et en particulier catholique. Alors ça, on le voyait donc
il
déjà.
Il croit à la résurrection.
Ouais, on le voyait déjà en lisant les poèmes, mais bon, peu de gens avaient lu les poèmes. Il parle de revenir dans la maison du Père, etc. C'est des poèmes qui sont très imprégnés de catholicisme. Et puis après, on l'a vu de plus en plus dans les romans. Enfin, ça devenait un peu inévitable. Je crois que c'est Sérotonine qui le personnage s'adresse à Dieu toute la dernière page. Bon, c'est maintenant assez évident. Et lui-même, alors de fait, dans des interviews, l'a reconnu. Enfin, il dit, il allait à la messe pendant 25 ans. Il compare ça de manière peut-être un peu provocatrice à des montées de drogue. C'est-à-dire, il croit quand il est à la messe, et puis quand il dit, je redescends aussitôt quand je sors de la messe. Il a voulu se faire baptiser. Il a fait des retraites comme son huissement, ce qu'il évoque dans un de ses romans. Donc c'est quelqu'un qui enquête. Qui cherche l'adhésion, la croyance, ouais. Qui dit qu'il n'y arrive pas, mais en même temps, moi ça, alors là on n'est plus dans le livre, dans les livres, mais je décris une scène qu'il y a dans le film Thalasso face à Gérard Depardieu. Alors oui, chacun joue leur rôle, enfin ne joue pas de rôle, justement ils sont eux-mêmes et ils boivent beaucoup dans le film. Mais là aussi c'est pas de la simulation. Et il y a un moment où Michel Houellebecq parle de la résurrection des corps à Depardieu, et ils font en larmes. Donc on voit que c'est voilà, c'est quand même pas, c'est quand même une croyance.
Ressenti.
Et puis dans une interview aussi, il raconte, bon, il admet, il lâche enfin le morceau, il dit, bon, je suis catholique dans le sens où je décris la misère de l'homme sans Dieu, donc il paraphrase quasiment Pascal, et il rectifie comme s'il en avait trop dit, il rectifie, mais uniquement dans ce sens-là. Mais enfin bon, voilà, quelqu'un qui croit en la résurrection, qui allait à la messe ou qui va à la messe depuis 25 ans et qui décrit la misère de l'homme sans Dieu, je crois qu'il est, en fait, il est beaucoup plus chrétien. Que bien des chrétiens affichés. Ouais.
Absolument. De l'intérêt, alors évidemment, là, on est allé très vite, on aurait pu développer davantage encore. En tout cas, il est quand même singulièrement libre, il est non-conformiste, il est profondément irrécupérable. Le terme m'a plu au sens politique du terme, et donc très intéressant, parce que finalement, il voit les choses sous différents aspects et il nous interroge. C'est ça l'intérêt aussi.
Oui, mais comme tous les grands artistes, il est subtil, il est paradoxal, il est pas manichéen. C'est malgré ce titre, où elle est politique, ses romans ne sont pas des romans engagés. Ce sont des romans qui ont une dimension politique, mais ils défendent pas réellement de thèse ou tous les personnages ont leur chance. Donc c'est ça qui est fascinant, enfin qui est passionnant chez lui, c'est que il est tout sauf un idéologue. C'est pas blanc ou noir chez lui. C'est il y a toutes les nuances de la condition humaine.
Un champ large au lecteur.
Oui, et c'est pour ça, encore une fois, que tellement de gens totalement différents peuvent s'y reconnaître quand on passe au-delà, ce qui peut rebuter l'image publique, les déclarations, les provocations, etc. L'allure qui alors plus ou moins négligée qu'a Michel Houellebecq. Il y a quelques années, il est arrivé à la télévision privé de dentier, ce qui donnait un air de clochard ou de SDF. Donc voilà, mais une fois qu'on passe les clichés, qu'on lit vraiment les livres, c'est quand même assez passionnant.
En tout cas, très intéressant cet ouvrage, Christian Autier, Houellebecq politique aux éditions Flammarion. Ben voilà, un livre à lire et puis revoir également, relire Houellebecq. Un grand merci.
Merci.
Au revoir.